Projet 1868, groupe d'études et d'actions caritatives Spirit. Quel est le but de la vie? Que se passe-t-il lorsqu'on décède? Où sont nos défunts et peut-on communiquer avec eux? Pourquoi doit-on traverser autant d'épreuves sur Terre? Quelle est notre mission de vie? Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que le bonheur? Sont autant de questions auxquelles l'enseignement des esprits peut nous apporter des réponses. Les esprits qui ne sont autres que l'individualité persistante de nos défunts après la mort. Cette série de podcasts a pour objectif de faire découvrir la philosophie spirit à travers de nombreux sujets d'études. Bienvenue pour ce second épisode d'une longue série de podcasts sur le spiritisme et la philosophie spirit. Dans ce second opus, nous allons aborder le thème de l'émancipation de l'âme au travers des points suivants. Qu'entend-on par émancipation? Quels sont les liens dont nous souhaitons nous émanciper, notamment avec le corps physique, dès la naissance, les épreuves de la vie corporelle qu'il implique? Quels sont les états du corps permettant un relâchement de ces liens, notamment pendant le sommeil, les rêves, le demi-sommeil, durant lesquels nous pouvons recevoir la visite des défunts, également travailler à des missions en tant qu'esprit momentanément libéré. Nous verrons aussi les étapes permettant une émancipation comme le somnambulisme, l'hypnose, l'extase, le coma ou la catalepsie, ainsi que la décorporation et le voyage astral. Enfin, on parlera de quelques exercices et outils pratiques qui permettent d'être plus conscient et lucide pendant cette liberté de l'esprit. Attachons-nous à essayer de poser une définition à cette idée d'émancipation de l'âme avec deux aspects. Une définition générique qu'on va retrouver dans les différents dictionnaires et la définition au sens spirit. Alors, dans les dictionnaires, on trouve que l'émancipation, c'est l'action de s'affranchir de liens, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, de préjugés. On trouve pour l'âme le principe vital et spirituel et immanent ou transcendant qui animerait le corps d'un être vivant. On voit qu'on ne se mouille pas trop et on trouve des définitions encore moins engageantes. Au sens spirit, l'émancipation de l'âme est un état particulier de la vie humaine pendant lequel l'âme, se dégageant de ses liens matériels, recouvre quelques-unes de ses facultés d'esprit et entre plus facilement en communication avec les êtres incorporels. Cet état se manifeste principalement par le phénomène des rêves, de la double vue, du somnambulisme naturel ou magnétique et de l'extase. En croisant ces deux approches de la définition, on peut donc en conclure que l'âme, principe vital et spirituel qui anime le corps, cherche à se libérer en permanence des liens avec son corps physique. Alors pour rappel, comme nous l'avons vu dans le premier épisode Introduction à la philosophie spirit, que je vous invite à réécouter ou écouter pour bien comprendre cet aspect, il y a dans l'homme trois choses qui le composent. Le corps, ou être matériel analogue à celui des animaux et animé par le même principe vital, l'âme, ou être immatériel, esprit incarné dans le corps, et un lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. C'est ce qu'on appelle le périsprit. Essayons de voir maintenant pourquoi les liens avec ce corps physique sont vécus de façon aussi difficile par l'âme. Tout d'abord, avant de s'incarner, il y a une préparation difficile qui entraîne un grand déséquilibre pour l'âme, même si c'est un moment, dans la plupart des cas, qui a été choisi avant l'incarnation. Dans le livre des esprits, au chapitre 7, Retour à la vie corporelle, au point 339, on peut lire la question suivante, posée aux esprits. Le moment de l'incarnation est-il accompagné d'un trouble semblable à celui qui a lieu à la sortie du corps? Et les esprits répondent « Beaucoup plus grand et surtout plus long. À la mort, l'esprit sort de l'esclavage. À la naissance, il y rentre. » Au point 334, on peut lire « À quel moment l'âme s'unit-elle au corps ?» L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Le cri qui s'échappe alors de l'enfant annonce qu'il fait nombre parmi les vivants et les serviteurs de Dieu. On peut lire dans la Genèse selon le spiritisme de Allan Kardec au chapitre 11, qui est d'ailleurs entièrement dédié au processus d'incarnation, l'esprit, lorsqu'il doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son périsprit le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, un lien se resserre sous l'influence du principe vital matériel du germe, le périsprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule avec le corps qui se forme, d'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son périsprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète, et alors il naît à la vie extérieure. On peut lire également dans l'ouvrage « Missionnaire de lumière » par le médium Chico Xavier sous l'inspiration de l'esprit d'André Louis, cet ouvrage qui est une des suites du livre « Nos Solars » N-O-2-S-O, plus loin L-A-R, dont vous pourrez trouver un très beau et instructif film du même titre. À propos d'une équipe de personnes désincarnées en mission avec des guides pour accompagner justement un de leurs frères désincarnés dans une nouvelle incarnation, pour quelle raison notre ami Segismundo, sur le point de s'incarner, souffre tant? Ai-je demandé à notre guide Alexandre sur un ton discret. Depuis longtemps, et plus particulièrement depuis la semaine passée, Segismundo est dans un processus de liaison fluidique directe avec ses futurs parents. Notre frère désincarné, Herculano, est chargé de l'aider dans ce travail à mesure que s'intensifie pareil rapprochement. Il perd peu à peu les points de contact avec les véhicules qu'elle consolida dans notre sphère astrale à travers l'assimilation des éléments de notre plan astral. Une telle opération est nécessaire pour que l'organisme périsprital puisse reprendre la plasticité qui lui est caractéristique et au niveau où il se trouve, ce travail lui impose des souffrances. En effet, lors de ce processus d'attachement du périsprit au corps humain, il va y avoir une réduction importante du corps périsprital pour pouvoir s'adapter à la taille du fœtus. Donc il faut imaginer le volume de votre corps actuel, être capable de le compresser pour le faire rentrer dans la taille d'un embryon. Par la suite, ce volume va progressivement retrouver une taille plus importante à mesure que le fœtus va se développer. Et ensuite, plus l'enfant va grandir, plus le périsprit va retrouver un volume d'un corps entier d'adulte. Durant tout ce processus d'attachement, il va y avoir un ancrage du périsprit cellule par cellule au corps physique. Cela va entraîner un grand trouble et surtout ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Beaucoup nous disent « Mais pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies précédentes ?» Eh bien, tout simplement parce qu'à l'incarnation, il y a le voile de l'oubli. Ce processus est un peu le même lorsqu'on se réveille le matin et que l'on a oublié une très grande partie de ce que l'on a vécu durant notre vie nocturne, notre vie d'esprit libéré, avec le voile de l'oubli du réveil. On peut lire également dans le même ouvrage, au même chapitre, « Souviens-toi de l'organisation fœtale, et toi petit ?» Imagine la nécessité de devenir enfant pour apprendre à être homme. Alors on pouvait voir le corps périsprital de notre ami Segismundo se réduire enfin. Avec un grand étonnement, je pus observer que l'apparence de notre ami ressemblait à celle d'un enfant. Mes amis, notre frère guide désincarné Herculano restera définitivement auprès de notre ami en incarnation Segismundo dans la nouvelle expérience jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 7 ans après la renaissance. Occasion à laquelle le processus de réincarnation sera consolidé. Dans l'ouvrage « Entre la Terre et le Ciel », toujours du médium Tycho Xavier sous la dictée d'André Louis, dans le chapitre « Face à la réincarnation », on peut lire « La réincarnation, aussi bien que la désincarnation, est un choc biologique des plus appréciables. Unie à la matrice génératrice du sanctuaire maternel, à la recherche de nouveaux corps, le périsprit souffre l'influence de forts courants électromagnétiques qui lui imposent une diminution automatique, constituée à base de principes chimiques, similaires dans leurs propriétés à l'hydrogène, principe qui se manifeste à travers des molécules significativement distantes les unes des autres. Le périsprit, quand il se lie au centre génésiaque féminin, subit une importante contraction, comme il en serait d'un vêtement de chair sur une charge électrique de grand pouvoir. On peut alors observer la réduction volumétrique du véhicule subtil par la diminution des espaces intermoléculaires. Les esprits eux-mêmes peuvent voir le corps fluidique de leurs frères en cours de réincarnation se raréfier sous leurs yeux. En effet, ils se trouvent engagés dans un processus actif de dissolution. Alors, une précision quand même, le périsprit ne se désintègre pas, il se contracte. Donc, il faut s'imaginer un esprit dans le plan astral, capable de voyager dans tout l'univers, capable de ressentir, de voir des choses absolument incroyables avec des sens développés, et qui se retrouve prisonnier, d'abord de l'embryon, puis d'un fœtus, puis dans le corps d'un enfant, puis le corps d'un adulte, avec toute la lourdeur que le corps physique implique, et notamment avec des facultés limitées, et qui va nécessiter un lourd apprentissage. Rappelez-vous, quand vous voyez vos enfants, ou comme vous-même avez appris à marcher, on a du mal à apprendre à utiliser ce corps, à maîtriser ses propres gestes, ses mouvements. C'est un véritable apprentissage pour être capable de se servir de cette nouvelle machine qui va nous permettre d'intervenir dans le monde matériel, et on va subir toute la lourdeur de ce corps physique. Imaginez-vous un esprit, quand vous êtes dans le monde astral, être capable en une pensée de se retrouver à l'autre bout de l'univers, à l'autre bout de la Terre, juste en y pensant, en quelques centièmes de seconde. Maintenant, si vous devez faire 100 mètres aujourd'hui sur Terre, vous voyez le temps et l'énergie que cela prend à votre corps physique. Et cette apesanteur qui nous colle au sol et demande une grande énergie musculaire pour se mouvoir. Alors, une fois ce lien établi avec le corps physique, nous avons vu notamment dans le premier épisode que le corps va subir des épreuves participant à l'avancement de l'esprit. Qu'entend-on par épreuve d'un point de vue spirit ? Ce sont les vicissitudes de la vie corporelle par lesquelles les esprits s'épurent suivant la manière dont ils les subissent. Selon la doctrine spirit, l'esprit dégagé du corps, reconnaissant son imperfection, choisit lui-même, par un acte de son libre arbitre, le genre d'épreuve qu'il croit le plus propre à son avancement, et qu'il subira dans une nouvelle existence. Donc on va trouver les difficultés liées à l'incarnation, comme on vient de le voir, on va trouver des difficultés de relation aux autres, de relation à sa propre famille, parfois, et je vous invite d'ailleurs à lire l'ouvrage de Divaldo Franco, qui est également un grand médium brésilien, contemporain et toujours incarné, qu'on peut parfois avoir la chance de voir en conférence, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Constellation familiale » et pourquoi les relations ne sont pas toujours très simples au sein d'une même famille, parfois d'une même fratrie. Ensuite, on va avoir des mises à l'épreuve du libre arbitre, les choix qu'on va être amené à faire, bons ou mauvais, et comme on l'a vu dans le premier épisode, ce sont ces choix qui nous enferme finalement dans nos propres épreuves. L'ensemble de ces épreuves vont nous apprendre des choses essentielles que sont la résilience, le pardon et l'amour. Dans le livre des esprits d'Allan Kardec, livre 2e et 3e, chapitre 2 et chapitre 9, on peut lire « Quel est le but de l'incarnation des esprits ?» Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation. Pour d'autres, c'est une mission, mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but, c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'épreuve de la création. C'est pour l'accomplir que, dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie à la matière essentielle de ce monde pour y exécuter, à ce point de vue, les ordres de Dieu, de telle sorte que, tout en concourant à l'œuvre générale, il avance lui-même. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère? Pour les éprouver, chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisies, et souvent ils y succombent. Laquelle des deux épreuves est la plus redoutable pour l'homme, celle du malheur ou celle de la fortune? Elles le sont autant l'une que l'autre. La misère provoque le murmure contre la providence, la richesse excite à tous les excès. Si le riche a plus de tentations, n'a-t-il pas aussi plus de moyens de faire le bien? C'est justement ce qu'il ne fait pas toujours. Il devient égoïste, orgueilleux et insatiable. Ses besoins augmentent avec sa fortune, et il croit n'en avoir jamais assez pour lui seul. L'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur. Car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Dans l'ouvrage « L'Évangile selon le spiritisme » de Allan Kardec, chapitre 5, on peut lire « Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Avec cela, on peut largement concevoir que notre esprit ne cherche qu'une chose, c'est à se libérer de ses liens avec le corps physique, dès qu'il en a la possibilité, à la moindre occasion du relâchement du corps. Et ces occasions, on peut les retrouver à l'état de vie, durant le sommeil, sous hypnose ou somnambulisme, lors d'un coma, d'une catalepsie ou léthargie, et lors d'un état qu'on peut appeler l'extase. L'état que nous expérimentons le plus et le plus régulièrement, et bien sûr le plus souhaitable, est le sommeil que nous vivons chaque jour, pour ne pas dire chaque nuit, car comme on le verra, la nuit n'est que la deuxième partie de notre journée. Attachons-nous maintenant à analyser le premier état de la vie nous permettant cette libération de nos liens, à savoir le sommeil. Le sommeil naturel est la suspension momentanée de la vie de relation. L'engourdissement des sens pendant lequel sont interrompues les relations de l'âme avec le monde extérieur au moyen des organes. Dans le livre des esprits, au point numéro 400, 400 et 402, on peut lire « L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle ?» C'est comme si tu demandais si le prisonnier se plaît sous les verrous. L'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance, et plus l'enveloppe est grossière, plus il désire en être débarrassé. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés, et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre monde. Souvent tu dis « j'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune vraisemblance ». Tu te trompes. C'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vécues ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant dans le passé ou dans l'avenir. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont tôt dégagés de la matière, à leur mort, ont eu des sommeils intelligents. Ceux-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Ils travaillent même à des ouvrages qu'ils trouvent tout faits en mourant. Ceci doit vous apprendre une fois de plus à ne pas craindre la mort, puisque vous mourrez tous les jours, selon la parole d'un saint. Mais qu'en est-il maintenant du demi-sommeil, le moment de l'endormissement, ou par exemple le moment d'un réveil momentané durant la nuit? Toujours dans le livre des esprits, on peut lire « Le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit ?» Non, l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Souvent, dans un état qui n'est pas encore le demi-sommeil, lorsque nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures dont nous saisissons les plus minutieux détails. Est-ce un effet de vision ou d'imagination? Le corps étant engourdi, l'esprit cherche à briser sa chaîne. Il se transporte et voit. Si le sommeil était complet, ce serait un rêve. Dans le livre des médiums d'Alan Kardec, chapitre 12, au point 151, on peut lire « Il arrive assez fréquemment que dans le demi-sommeil, on entend distinctement prononcer des mots, des noms, quelquefois même des phrases entières, et cela assez fortement pour nous réveiller en sursaut. » Mais alors, que se passe-t-il dans ce moment où l'esprit est libre? Que faisons-nous de cette deuxième partie de la journée? Dans le livre des esprits, chapitre 8, on peut lire « Du principe de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil, il semble résulter que nous avons une double existence simultanée, celle du corps qui nous donne la vie de relations extérieures et celle de l'âme qui nous donne la vie de relations occultes. Cela est-il exact ? Dans l'état d'émancipation, la vie du corps cède à la vie de l'âme, mais ce ne sont pas à proprement parler deux existences, ce sont plutôt deux phases de la même existence, car l'homme ne vit pas doublement. Deux personnes qui se connaissent peuvent-elles se visiter pendant le sommeil? Oui, et beaucoup d'autres, qui croient ne pas se connaître, se réunissent et se parlent. Tu peux avoir, sans t'en douter, des amis dans un autre pays. Le fait d'aller voir pendant le sommeil des amis, des parents, des connaissances, des gens qui peuvent vous être utiles est tellement fréquent que vous l'accomplissez vous-même presque toutes les nuits. Quelle peut être l'utilité de ces visites nocturnes, puisqu'on ne s'en souvient pas? Il en reste ordinairement une intuition au réveil, et c'est souvent l'origine de certaines idées qui viennent spontanément sans qu'on se les explique, et qui ne sont autres que celles que l'on a puisées dans ses entretiens. Ne dit-on pas la nuit porte conseil? L'homme peut-il provoquer les visites spirites par sa volonté? Peut-il par exemple dire en s'endormant, cette nuit, je veux me rencontrer en esprit avec telle personne, lui parler, lui dire quelque chose? Voici ce qui se passe. L'homme s'endort, son esprit se réveille. Et ce que l'homme avait résolu, l'esprit est souvent bien loin de le suivre, car la vie de l'homme intéresse peu l'esprit, quand il est dégagé de la matière. Ceci est pour les hommes déjà assez élevés, les autres passent tout autrement leur existence spirituelle. Ils s'adonnent à leur passion ou restent dans l'inactivité. Il peut donc se faire que, selon le motif qu'on se propose, l'esprit aille visiter les personnes qu'il désire. Mais de ce qu'il en a la volonté étant éveillé, ce n'est pas une raison pour qu'il le fasse. Dans l'ouvrage « Entre la terre et le ciel » de Chico Xavier, on peut trouver l'histoire de deux hommes qui convoitent la même femme dont un l'a épousée, régler leur compte dans les rêves. Pourquoi ne pas revenir aux rêves de la nuit précédente afin d'essayer de trouver une solution? Le visage d'Amaro grandissait dans son champ mental. Si les âmes pouvaient effectivement se retrouver hors du corps, poursuivit-il en divaguant, je parviendrai à coup sûr à revoir mon adversaire et à lui rendre la monnaie de sa pièce. Si j'ai été invoqué en rêve une première fois, il est normal que je puisse invoquer qui je veux. J'appellerai ce traître, le mari de Zulmira, pour qu'il s'explique. Je vais concentrer le pouvoir de ma pensée sur lui et j'irai le chercher où qu'il se trouve. Reproduisant l'impulsion du fer attiré par l'aimant, l'époux de Zulmira, dans son corps subtil, répondait à l'étrange appel de l'ennemi, partiellement délié de la chair. Pour revenir sur le livre des esprits d'Alan Kardec, on peut également lire « Un certain nombre d'esprits incarnés peuvent-ils se réunir ainsi et former des assemblées ?» Sans aucun doute, les liens de l'amitié, anciens ou nouveaux, réunissent souvent ainsi divers esprits heureux de se retrouver ensemble. Une personne qui croirait un de ses amis mort tandis qu'il ne le serait pas, pourrait-elle se rencontrer avec lui en esprit et savoir ainsi qu'il est vivant? Pourrait-elle dans ce cas en avoir l'intuition au réveil? Comme esprit, elle peut certainement le voir et connaître son sort, s'il ne lui est pas imposé comme épreuve de croire à la mort de son ami. Elle aura un pressentiment de son existence, comme elle pourra avoir celui de sa mort. Dans l'ouvrage « Les enfants qui se rappellent de leur précédente vie » du docteur Stevenson, qui n'est pas à proprement parler un ouvrage spirit, mais plutôt une approche scientifique de la part du docteur Stevenson, qui était psychiatre, qui a rassemblé un ensemble de témoignages tout au long de sa carrière d'enfants disant se rappeler de leur vie précédente. Il a également mené de nombreuses enquêtes par rapport aux éléments qui étaient donnés et a pu retrouver les anciens parents, anciens enfants, anciens amis, anciennes maisons, etc., des personnes décédées et réincarnées apportant ces témoignages. On peut lire, page 18-19, le témoignage d'un homme ayant perdu de vue pendant de longues années son meilleur ami d'enfance, avec qui il était absolument inséparable, et qui lui était resté en Angleterre pendant que son ami d'enfance était parti vivre depuis plus de 20 ans en Inde. Un soir, alors qu'il s'assoupissait dans son bain, donc qu'il entrait dans une condition de demi-sommeil, il sentit une présence près de lui et en se retournant vit son ami assis sur une chaise dans le coin de la pièce en train de l'observer. Il reprit ses esprits bien sûr et ne vit plus son ami assis sur la chaise. Quelques semaines plus tard, il reçut un courrier qui lui apprit que son ami était décédé en Inde à plusieurs milliers de kilomètres de là, le même jour où il eut cette apparition. Donc on peut voir ici qu'il est possible d'avoir la visite d'un défunt à une personne incarnée en état de demi-sommeil. Il existe également un bon exemple de visite des incarnés dans les rêves des uns des autres pour régler différentes histoires de leur vie précédente et de leurs actions de leur vie présente. Dans l'ouvrage « Entre la terre et le ciel » de Chico Xavier, de nouveau, André Louis révèle l'histoire émouvante de Amaro, Zulmira, Odila et d'autres personnages liés dans les liens familiaux. Emmanuel, qui est un esprit guide, et entre parenthèses qui a été l'esprit guide de Chico Xavier, assure la famille dans la tourmente de la jalousie, les luttes quotidiennes pour l'acquisition de progrès moral. Cet ouvrage résume tout ce que nous avons vu sur la vie nocturne de l'esprit. La visite d'incarnés pendant les rêves pour régler des conflits, la visite de désincarnés missionnaires aux incarnés pour donner des conseils et de l'orientation, l'accompagnement à l'incarnation de la future mère incarnée, les messages de pardon et d'amour pendant les rêves, les fortes sensations au réveil et les impacts sur les liens familiaux. On peut y trouver un passage où la jeune Evelina reçoit en visite sa mère défunte qui va lui apporter une orientation pour lui demander de se comporter différemment avec sa belle-mère qui est en souffrance. Et on peut lire « Prends part au travail qui encourage l'harmonie. Sois l'ange du service dans notre petite maison. Zulmira a besoin d'une sœur, d'une fille. Profite de cette opportunité et fais pour le mieux. » Le lendemain, à son réveil, elle dit « J'ai rêvé à maman, je l'ai vue nettement comme si elle avait encore été parmi nous. Elle a affirmé que nous avions besoin d'amour et elle m'a recommandé d'être, pour Zulmira, la fille qu'elle n'a pas. Ah, quelle joie! Maman a entendu mes prières. » Dans l'ouvrage « Missionnaire de la lumière » de Chico Xavier, au chapitre 8, on peut voir un guide préparant un travail d'orientation et qui souhaite amener des compagnons encore incarnés lors de leur sommeil. Il dit alors « Ce serait pour nous une grande satisfaction de les voir profiter du temps de sommeil physique. Malheureusement, une grande majorité profite même inconsciemment du repos nocturne pour sortir à la chasse des émotions frivoles ou les moins dignes. Ces travaux réalisés sont pourtant inexprimables et immenses. Les frères incarnés pourraient effectuer les conquêtes les plus brillantes pendant ce temps de sommeil. » Alors, maintenant que nous avons vu longuement l'état de sommeil, de demi-sommeil, des rêves, attardons-nous sur l'état dit de somnambulisme et d'hypnose. On peut en effet rapprocher ces deux idées, car l'hypnose telle que nous la connaissons aujourd'hui est en réalité un somnambulisme dit magnétique ou encore provoqué. Selon le spiritisme, le somnambulisme, du mot latin signifiant « se promener en dormant », est l'état d'émancipation de l'âme plus complet que dans le rêve. Le rêve est un somnambulisme imparfait. Dans le somnambulisme, la lucidité de l'âme, c'est-à-dire la faculté de voir qui est un des attributs de sa nature, est plus développée. Elle voit les choses avec plus de précision et de netteté. Le corps peut agir sous l'impulsion de la volonté de l'âme. Dans le livre des esprits, chapitre 8, on peut lire « Le somnambulisme naturel a-t-il du rapport avec les rêves ? Comment peut-on l'expliquer ? C'est une indépendance de l'âme plus complète que dans le rêve. Et alors, ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Le somnambulisme, appelé magnétique, a-t-il du rapport avec le somnambulisme naturel ? C'est la même chose, si ce n'est qu'il est provoqué. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la notion d'hypnose, car cette notion n'existait pas au XIXe siècle, à l'époque où a été écrit le Livre des Esprits. Comment le somnambule peut-il voir à travers les corps opaques ? Il n'y a de corps opaque que pour vos organes grossiers. Il voit par toutes les parties de son corps, ou, pour mieux dire, c'est en dehors de son corps qu'il voit. Quelle est la nature des idées innées du somnambule et comment peut-il parler avec exactitude des choses qu'il ignore à l'état de veille, qui sont même au-dessus de sa capacité intellectuelle ? Il arrive que le somnambule possède plus de connaissances que tu ne lui en connais. Seulement, elle sommeille, parce que son enveloppe est trop imparfaite pour qu'il puisse s'en souvenir. L'expérience montre que les somnambules reçoivent aussi des communications d'autres esprits qui leur transmettent ce qu'ils doivent dire et suppléent à leur insuffisance. Le somnambule peut-il voir les autres esprits ? La plupart les voient très bien. Cela dépend du degré et de la nature de leur lucidité. Mais quelquefois, ils ne s'en rendent pas compte tout d'abord. Ils les prennent pour des êtres corporels. Cela arrive surtout à ceux qui n'ont aucune connaissance du spiritisme. Ils ne comprennent pas encore l'essence des esprits, cela les étonne, et c'est pourquoi ils croient les voir vivants. Dans le livre des médiums, on peut lire également « Il y a, chez le somnambule, un dégagement naturel, une sorte d'isolement de l'esprit et du périsprit qui doit faciliter la combinaison des fluides nécessaires. » Le somnambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté médiumnique. Le somnambule agit sous l'influence de son propre esprit. C'est son âme qui, dans les moments d'émancipation, voit, entend et perçoit en dehors de la limite des sens. Ce qu'il exprime, il le puise en lui-même. Ses idées sont en général plus justes que dans l'état normal, ses connaissances plus étendues, parce que son âme est libre. En un mot, il vit par anticipation de la vie des esprits. Mais l'esprit qui se communique à un médium ordinaire peut tout aussi bien le faire à un somnambule. Souvent même, l'état d'émancipation de l'âme pendant le somnambulisme rend cette communication plus facile. Pour préciser, ici on a parlé beaucoup de somnambulisme, mais comme je l'ai dit précédemment, l'idée d'hypnose n'existait pas vraiment au XIXe siècle. On pourrait aujourd'hui remplacer le somnambulisme par l'hypnose. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on peut appeler l'état d'extase. Extase, du grec extasis, qui veut dire renversement d'esprit, fait de existémie, frappé d'étonnement. C'est le paroxysme de l'émancipation de l'âme pendant la vie corporelle, d'où résulte la suspension momentanée des facultés perceptives et sensitives des organes. Dans cet état, l'âme ne tient plus au corps que par de faibles liens qu'elle cherche à rompre. Elle appartient plus au monde des esprits qu'elle entrevoit qu'au monde matériel. L'extase est quelquefois naturelle et spontanée. Elle peut aussi être provoquée par l'action magnétique ou de certaines drogues. Et dans ce cas, c'est un degré supérieur de somnambulisme. On peut lire dans le Livre des Esprits, chapitre 8, « Quelle différence y a-t-il entre l'extase et le somnambulisme ?» C'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. L'esprit de l'extatique pénètre-t-il réellement dans les mondes supérieurs ? Oui, il les voit et comprend le bonheur de ceux qui y sont. C'est pourquoi il voudrait y rester. mais il est des mondes inaccessibles aux esprits qui ne sont pas assez épurés. L'extase est un état qui peut être extrêmement dangereux pour celui qui l'expérimente, car il peut entraîner de grands bouleversements au retour de l'esprit dans le corps et dans le monde matériel. L'extatique ne trouvera plus sa place dans ce monde et cherchera sans cesse à vouloir vivre cette expérience. Parmi les différents états de la vie permettant une libération des liens de l'âme avec le corps, ou plutôt une émancipation de l'esprit, il y a également le coma, la léthargie, la catalepsie, qui sont un aspect moins agréable, mais bien réel. Dans le livre des esprits, au chapitre 8, toujours, on peut lire « Les léthargiques et les cataleptiques voient et entendent généralement ce qui se passe autour d'eux, mais ne peuvent pas le manifester. Est-ce par les yeux et les oreilles du corps? Non, c'est par l'esprit. L'esprit se reconnaît, mais il ne peut se communiquer. Pourquoi ne peut-il pas se communiquer? L'état du corps s'y oppose. Cet état particulier des organes vous donne la preuve qu'il y a en l'homme autre chose que le corps, puisque le corps ne fonctionne plus et que l'esprit agit. La léthargie et la catalepsie ont le même principe, qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement par une cause physiologique encore inexpliquée. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. C'est ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui le coma, qui est une notion qui n'existait pas non plus vraiment au XIXe siècle. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle. La catalepsie est quelquefois spontanée, mais elle peut être provoquée et détruite artificiellement par l'action magnétique. Pour finir, intéressons-nous au dernier état permettant de se libérer de ces liens durant la vie, à savoir la décorporation et le voyage astral, que de nombreux d'entre nous ont probablement déjà expérimenté. La décorporation désigne une expérience vécue par un individu impliquant la sensation de flotter en dehors de son corps. Cela désigne également l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant. Attention, dans la décorporation, on reste souvent dans le monde matériel, proche du monde matériel, souvent terrestre, et c'est dans ces moments que l'on a le plus de chances de faire des mauvaises rencontres, dirons-nous, du bas astral. Le voyage astral, lui, est l'état supérieur à la décorporation, permettant à l'individu d'atteindre des strates astrales plus avancées. L'individu voit généralement son enveloppe éthérée de lumière ou corps de lumière. Le retour au corps physique a généralement un impact important. Perception de la vie et de la mort, capacité médiumnique ou magnétique, à la suite de cette expérience. Donc pour résumer et pour nous donner une meilleure idée, la décorporation reste dans l'environnement matériel de la personne qui l'expérimente, alors que le voyage astral permet d'aller visiter justement des couches astrales plus hautes, de voyager dans l'univers et de se voir comme un être de lumière, là où l'expérimentateur de la décorporation verra son corps physique, son double physique et également son périsprit. Voilà, donc pour finir cet exposé, et comme promis, je voulais vous donner quelques outils pour essayer de vivre des expériences plus lucides lors des différents états, notamment pendant le sommeil et les rêves. Alors, pour essayer d'avoir un sommeil utile, l'idée est de vivre le coucher comme un moment solennel, se préparer quelques minutes avant, demander, prier pour avoir un sommeil utile, demander à travailler à des projets, à des actions pour les autres, pour soi. Pour améliorer la lucidité de ses rêves, on peut bien sûr demander à vivre des rêves lucides, c'est l'intention qui compte. Et un outil qui est également très utile, c'est de tenir un carnet, un journal quotidien de ses rêves. C'est pas facile à faire, il faut s'y astreindre, il faut avoir une régularité et une rigueur. Mais plus on va noter ses rêves, même si parfois on ne s'en souvient pas trop et que ce n'est pas très clair, il faut tout de même faire l'exercice et on va s'apercevoir que progressivement, on va se souvenir de plus en plus de ses rêves. De façon générale, pour vivre cette meilleure lucidité dans les rêves, mais également travailler sa pleine conscience au quotidien, à l'état d'éveil, l'idée est de travailler sa capacité à se libérer des pensées, de l'ego au profit de sa conscience. Je vous invite bien évidemment, et certains l'auront deviné, à vous procurer les ouvrages de Eckhart Tolle, et notamment la mise en pratique du moment présent, ou également un auteur moins connu du public français, puisque c'est un Américain, qui s'appelle Adyashanti, A-D-Y-A, plus loin S-H-A-N-T-I, qui également propose des exercices pour travailler l'instant présent et faire taire un petit peu la petite voix qu'on a en permanence dans la tête. Je vous invite également à travailler, à élever votre niveau vibratoire en pensée, action positive, votre hygiène de vie, ce que vous mangez, votre moralité. Et pour finir, une petite mise en garde, ne pas chercher à provoquer des sorties hors du corps, des décorporations ou des voyages astraux. L'expérience peut vite se révéler traumatisante par l'influence et la rencontre du bas astral, très présent autour de notre globe terrestre, et cela fera l'objet d'un nouvel épisode dans notre série de podcasts. Nous arrivons à la fin de ce long exposé et vous remercions pour son écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de cette série de podcasts qui aura pour thème la réincarnation. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté et à vous rendre sur notre site internet www.projet1868.com. Vous y trouverez un ensemble de conférences auxquelles vous pouvez vous inscrire, des articles, et n'hésitez pas à nous laisser un message dans notre espace de contact.